Sophie.
Toujours à l'écoute de Radio France Internationale, et vous avez bien raison, il est 15h ici à Paris, 13h temps universel, 9h à Washington. C'est la dernière partie de RFI Midi. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et du continent américain. Au menu évidemment les conséquences du retrait de Joe Biden à la présidentielle américaine et donc de la candidature de Kamala Harris pour les démocrates. Nombre d'entre eux d'ailleurs l'ont rejointe. La vice-présidente qui bénéficie dorénavant de soutien très important dans la course à la Maison Blanche. On revient aussi sur cette nouvelle tranche d'aide humanitaire pour Haïti à hauteur de 60 millions de dollars promis hier par l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. On en parle avec Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Et puis l'actualité des Outre-mer. Avec vous, Benoît Ferrand. Et à la une, Benoît, 16 200 000 € pour la modernisation et le renouvellement de la flottille de pêche en Guadeloupe.
Des financements qui ne seront pas de trop, comme on dit, pour tenter de remettre à flot une filière qui ne cesse de décliner sur l'île des Antilles.
A tout à l'heure, Benoît. On vous appelle dans 20 minutes. Et d'abord le journal. Avec vous, Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Stéphane.
Et la voix qui est dégagée pour Kamala Harris.
Oui, apparemment plus rien ne peut empêcher l'actuelle vice-présidente de défendre les couleurs de son camp à la prochaine présidentielle aux États-Unis. Kamala Harris, qui se dit fière d'avoir assez de soutien pour être désignée candidate des démocrates. Elle tient aujourd'hui son premier meeting de campagne dans le Wisconsin, un état décisif face à Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Kamala Harris, qui actuellement est visée par une vaste opération de désinformation sur les réseaux sociaux, on l'a dit, inéligible, inapte à diriger son pays. La vice-présidente est devenue la cible numéro un des infox venant du camp républicain. Tout est fait pour la discréditer, comme les vidéos détournées, les images manipulées. Grégory Genevrier.
L'infox la plus partagée affirme que Kamala Harris serait inéligible car elle ne serait pas une citoyenne américaine de naissance. En cause, la nationalité indienne de sa mère et jamaïcaine de son père. Seulement, la loi américaine précise que toute personne née sur le sol américain, quelle que soit la nationalité de ses parents, est considérée comme citoyen de naissance. Règle qui s'applique bien à Kamala Harris, née à Auckland en 1964. Autre fausse accusation, l'ex-procureur aurait été une proche du milliardaire Jeffrey Epstein, reconnu coupable de trafic sexuel. La preuve serait une photo où l'on croit les voir poser côte à côte. Mais en réalité, l'image originale a été trafiquée. Kamala Harris posait avec son mari. Et puis, vous avez peut-être vu ce discours dans lequel elle semble tenir des propos incohérents, parlant d'aujourd'hui et de demain durant plusieurs secondes. Eh bien là aussi, il y a manipulation, puisque c'est un deepfake. Des infox anciennes, aujourd'hui ressorties du placard par des soutiens de Donald Trump.
Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de la rédaction. Enfin, parmi les derniers soutiens de Kamala Harris, et là ce n'est pas une infox, George Clooney, l'acteur, déclare qu'il la soutient. Il remercie Joe Biden d'avoir, je cite, « sauvé la démocratie ».
On s'intéresse à présent à l'économie du Venezuela.
L'avenir du pays se jouera dimanche prochain lors d'une présidentielle à haut risque pour le chef de l'État, Nicolas Maduro. Il brigue un troisième mandat de 6 ans, mais dans les sondages, il est donné battu par le candidat de l'opposition. L'économie est l'un des principaux thèmes de campagne au Venezuela. L'économie sort la tête de l'eau après avoir traversé une crise très grave avec une inflation au plus haut et un PIB en chute libre. Alice Campagnol est notre correspondante à Caracas.
L'économie du Venezuela va mieux, bien qu'elle soit loin d'être remise sur pied. Grâce à une dollarisation informelle, l'hyperinflation est terminée. Même si le pays vit toujours une inflation à deux chiffres, 2024 pourrait être la première année depuis 2017 que l'inflation passe sous la barre des 100%. Les échanges commerciaux reprennent peu à peu. Luis Pedro España, économiste.
À partir de 2019, la politique économique a changé de facto, via une série de suspensions de contrôles économiques qui existaient auparavant. Suspension du contrôle des prix, du contrôle de la circulation de marchandises, de la production du secteur privé. Et fin du contrôle d'échange.
Cette année, la croissance du PIB devrait atteindre 4%. Oui, mais tout n'est pas rose. La production de pétrole, l'une des principales sources de revenus du pays, est toujours très en deçà de ce qu'elle a été. Elle est aujourd'hui d'environ 800 000 barils par jour, alors qu'elle a atteint 3 millions de barils quotidiens. Les sanctions de Washington empêchant fortement la vente de ce pétrole ne facilitent pas la tâche. Et évidemment, l'incertitude électorale électorale pèse également sur l'économie vénézuélienne. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
En restant en Amérique latine, direction le Chili, plein hiver, hein, où la population craint de voir flamber ses factures d'électricité, Gilles Moreau.
Oui, tout à fait Stéphane, c'est très bien résumé. Le gouvernement de gauche a en effet mis fin au gel des tarifs qui étaient en place depuis 5 ans. C'était lors de la crise sociale qu'a connue le Chili. L'État chilien doit maintenant quelques 6 milliards de dollars aux sociétés électriques. La hausse annoncée ce mois-ci sera appliquée sur la facture du mois d'août, mais d'ores et déjà, les ménages prennent des mesures pour amortir le choc. Reportage de notre correspondante à Santiago, Naila Derouane.
Denise, retraitée, peine à joindre les deux bouts. En plus, dans son petit appartement, tout est électrique. Alors cette hausse des tarifs, ça l'inquiète.
Je suis angoissée, je ne sais pas comment je vais faire. Normalement, avec le froid, j'allume le chauffage électrique, mais là, je le laisse éteint. Je me couvre bien et je bois du thé pour me réchauffer. Et la nuit, j'allume une bougie pour économiser la lumière.
Elena, elle, a troqué son radiateur électrique pour un chauffage à base de pétrole.
J'espère ainsi maintenir ma consommation actuelle pour ne pas générer de hausse trop importante sur la facture.
Aux ménages les plus pauvres, l'État va verser une aide, mais rien n'est prévu pour la classe moyenne, déplore la jeune femme.
Nos familles ne reçoivent jamais de soutien et tout ça nous affecte beaucoup.
Toutes les économies sont alors bonnes à prendre. Par exemple, utiliser une théière plutôt que la bouilloire électrique, très énergivore. Dans ce magasin d'électroménager, le gérant commercial a vu la différence.
Quand ils ont annoncé que les prix de l'électricité allaient augmenter, notre stock de théière a été épuisé en 3-4 jours et nous avons dû repasser commande rapidement.
La répercussion de cette hausse des tarifs va durer plusieurs mois pour atteindre jusqu'à 60% d'ici l'année prochaine. Naila Derouane, Santiago, RFI.
On en vient à présent, Gilles Moreau, à Greenpeace menacé de disparition aux États-Unis.
Oui, l'ONG environnementale a été attaquée en justice aux États-Unis par Energy Transfer, qui est un géant des hydrocarbures. Il lui réclame 300 millions de dollars, accusant Greenpeace de dégradation lors de manifestations. Une somme bien trop importante pour l'ONG qui s'inquiète pour sa survie. Explication Margot Ratézic.
Tout commence en 2016. Des militants écologistes se mobilisent contre la construction du Dakota Access Pipeline, un immense oléoduc dans le nord des États-Unis. L'entreprise à l'origine de sa construction accuse alors Greenpeace d'actions violentes. Energy Transfer réclame aujourd'hui 300 millions de dollars à l'ONG, ainsi que des dommages-intérêts qui pourraient porter la somme à 900 millions de dollars. Pour Greenpeace, c'est une fortune, comme l'explique Daniel Simmons, son conseiller juridique.
Nous constatons que si Greenpeace aux États-Unis venait à perdre la procédure, ils cesseraient d'exister car ils n'ont pas les fonds suffisants.
Greenpeace International, basé aux Pays-Bas, vient de riposter en brandissant une nouvelle directive européenne, une directive contre les procédures abusives qui cherchent à étouffer les voix dissidentes.
Je pense que nous avons des chances d'obtenir gain de cause aux États-Unis, car les faits sont très solides de notre côté. Le seul atout de l'entreprise est que l'affaire est plaidée devant un jury, dans un très petit district où les manifestations ont beaucoup perturbé la vie des gens. L'industrie pétrolière et gazière y est aussi très importante sur le plan économique, et c'est un endroit politiquement très conservateur.
Le procès doit se tenir en février et mars 2025. Son issue déterminera la survie de Greenpeace aux États-Unis et de ses 205 employés.
Allez, tout autre chose pour finir. Les Jeux Olympiques de Paris, ils approchent à très grands pas. Nous sommes à 3 jours de la cérémonie d'ouverture vendredi sur la Seine, en espérant que le beau temps sera au rendez-vous. Ce matin à Paris, c'était plutôt gris et pluvieux. En marge des Jeux, la 142e session du Comité international olympique. Il se tient actuellement à Paris. Le moment de vérité est arrivé, a déclaré son président Thomas Barr. Alors que les délégations arrivent dans la capitale française, les compétitions commencent dès demain, mercredi, au programme les premiers matchs de football et de rugby à 7. Hein, les choses sérieuses commencent, on se prépare, hein, Stéphane.
Effectivement, on suivra ça avec attention. C'était le journal avec vous, Gilles Moreau, 15h09, ici à Paris, 9h09 à Washington.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Kamala Harris en campagne pour le camp démocrate aux États-Unis. 48 heures après le retrait de Joe Biden dans la course à la présidentielle, c'est Kamala Harris qui prend donc le relais. Elle tient un meeting ce mardi soir. Ce sera dans le Wisconsin. La vice-présidente qui a maintenant moins de 4 mois pour convaincre les Américains et surtout son camp de la solidité de son profil. À l'instant, le comédien George Clooney annonce la soutenir. Il remercie, je cite, Joe Biden d'avoir sauvé la démocratie en se retirant. Hier, Kamala Harris a reçu également le soutien de poids lourds du parti, comme par exemple Nancy Pelosi, et puis de plusieurs gouverneurs du pays, dont certains qui étaient d'ailleurs perçus comme de possibles rivaux. Et parmi ces soutiens, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer.
Bonjour, ici Gretchen Whitmer, gouverneur du Michigan. Je suis ravie de soutenir la candidature de Kamala Harris à la présidence des États-Unis. Avec Kamala Harris, les électeurs du Michigan ont une candidate présidentielle sur laquelle ils peuvent compter pour réduire nos coûts, protéger nos libertés et construire une économie qui fonctionne pour les travailleurs. C'est une ancienne procureure, une championne des droits reproductifs et je sais qu'elle défend les intérêts du Michigan. C'est un contraste frappant avec Donald Trump, un criminel condamné qui a trempé dans la violence et a fait plonger notre économie la dernière fois qu'il a été à la Maison Blanche. La vice-présidente Harris a tout mon soutien et je suis fière d'être la coprésidente de sa campagne. Alors Michigan, mettons-nous au travail. Nous ne pouvons pas laisser Donald Trump s'approcher de la Maison Blanche. C'est parti. Let's
go. Alors, on n'y est pas encore. Kamala Harris cumule les soutiens, on vient de l'entendre, mais elle n'a pas encore été désignée candidate officielle du Parti démocrate. Pour autant, ça sent bon pour Kamala Harris. Bonjour Vincent Souriau.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Alors la presse américaine, elle tient les comptes, Vincent, et la vice-présidente de Joe Biden a déjà engrangé le soutien de plus de 2500 délégués démocrates.
2668 promesses de vote exactement d'après l'agence AP, beaucoup plus qu'il n'en faut pour l'emporter dès le premier tour puisque la barre de la désignation est fixée à 1976 délégués. Autrement dit, Kamala Harris a déjà 900 voix d'avance sur n'importe quel concurrent potentiel. Attention, rien n'est figé dans le marbre, les votants peuvent encore changer d'avis jusqu'au dernier jour du scrutin, mais à ce stade, rien ni personne ne semble en mesure d'empêcher sa nomination.
Et les démocrates veulent aller le plus vite possible.
Et oui, c'est une nouvelle campagne qui commence, il faut mettre en marche tous les leviers du parti et il n'est plus question d'attendre. La convention démocrate, elle va bien avoir lieu entre le 19 et le 22 août à Chicago, mais l'adoubement de Kamala Harris devrait intervenir beaucoup plus tôt dans le cadre de ce qu'on appelle un roll call, autrement dit un vote en ligne, réunion sur Internet de tous les délégués démocrates qui seront appelés à choisir un candidat dès la première semaine d'août et la convention ne serait plus qu'une formalité.
Vous restez avec nous, Vincent Souriau. On reste aux États-Unis puisque la directrice du Secret Service a reconnu hier lors d'une audition au Congrès que ses services avaient échoué dans leur mission de protéger Donald Trump. Donald Trump, hein, qui, je vous le rappelle, a été visé il y a 10 jours en Pennsylvanie par une tentative d'assassinat. Écoutez Kimberly Schittel, la directrice du Secret Service.
La mission solennelle du Secret Service est de protéger les dirigeants de notre nation. Le 13 juillet, nous avons échoué. Je remuerai ciel et terre pour m'assurer qu'un incident tel que celui du 13 juillet ne se reproduise jamais.
Voilà Kimberly Schittel sur le grill hier à la Chambre des représentants, Vincent Souriau.
Oui, on s'y attendait, elle aussi d'ailleurs. La patronne du Secret Service a passé un très mauvais moment, laminée par les élus des deux bords après la catastrophe du 13 juillet, cette tentative d'assassinat contre Donald Trump. En sait-on d'ailleurs davantage après son audition? Eh bien, pas du tout. Kimberly Schittel s'est évertuée à esquiver les questions qui fâchent, renvoyant sans cesse à l'enquête en cours menée par le FBI. Et c'est tout le problème, estime le Washington Post dans son éditorial aujourd'hui. La première chose à offrir après une telle débâcle, ce serait la transparence. Or, jusqu'ici, les réponses de Kimberly Schittel ont été plus qu'insuffisantes. Parfois, elles ont même été incohérentes. Alors, personne ne dit que le boulot du Secret Service est facile. L'agence doit protéger le président, le vice-président, leur famille, les candidats à la présidentielle, les dirigeants étrangers en visite. Et si c'était trop, se demande le Washington Post, pour réparer le Secret Service, il faut qu'il admette d'abord les erreurs du 13 juillet, mais est-ce qu'il ne serait pas temps d'une véritable remise à zéro ?
La presse aux États-Unis. Avec vous, Vincent Souriau. On vous retrouve dans une poignée de secondes pour la presse sur le reste du continent américain. 15h14 à Paris, 9h14 à Port-au-Prince.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et comme chaque mardi, en ligne avec nous, Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour Stéphane.
Et Godson, une nouvelle tranche d'aide humanitaire pour Haïti à hauteur de 60 millions de dollars promise hier par l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU.
Madame Greenfield a fait cette annonce à l'issue d'une visite de quelques heures en Haïti durant une conférence de presse. L'aide américaine devrait combler les lacunes en matière de nutrition, de sécurité alimentaire et d'abri, améliorer aussi les services d'eau et d'assainissement et fournir aux Haïtiens de l'argent liquide pour acheter des produits de première nécessité. La violence des gangs a eu des effets dévastateurs en Haïti, particulièrement à la capitale Port-au-Prince. Environ 600 000 personnes ont été obligées d'abandonner leur résidence sous la pression des gangs, tandis que les problèmes sanitaires et alimentaires sont très aigus.
Et Washington qui veut aussi faire plus pour la mission multinationale d'appui à la sécurité. Augmentation substantielle du nombre de véhicules blindés livrés par les États-Unis. Est-ce que l'on sait en fait, Godson, où en sont les opérations de cette force internationale ?
On peut juste dire, Stéphane, que 200 policiers kényans sont arrivés la semaine dernière en Haïti, faisant passer à 400 le contingent. Madame Greenfield les a visités à leur base et a applaudi le leadership kényan sans pouvoir dire quand est-ce que cette force sera complétée. 600 kényans sont en formation pour être dépêchés en Haïti, 200 jamaïcains sont attendus. À terme, la force multinationale doit être composée de 2500 membres, en plus du Kenya et de la Jamaïque, ils doivent venir des Bahamas, du Bangladesh, de la Barbade, du Bénin et du Tchad.
Et puis, côté politique, Godson Pierre, le cri d'alarme de plusieurs associations féministes, à la fois sur l'inclusion des femmes et sur le processus de formation du Conseil électoral provisoire.
Elles se sont exprimées dans une note conjointe publiée hier, faisant part de sérieux questionnements. En effet, elles considèrent que dans sa lettre au secteur pour solliciter la désignation de membres au Conseil électoral, le Conseil présidentiel retient des critères qui ne peuvent être actuellement satisfaits, comme obtenir des charges de sa gestion ou qui disqualifie abusivement, par exemple, n'avoir aucun dossier de justice en cours. Elles expliquent qu'avoir affaire à la justice n'implique pas que ce soit forcément pour une inculpation. Elles critiquent aussi l'opacité du processus. Le Conseil n'a fait aucune communication officielle concernant le CEP, en particulier sur les critères de choix des organisations retenues pour coordonner le processus de désignation.
Godson Pierre, le patron d'Alder Press, en direct comme tous les mardis de Port-au-Prince. Merci Godson et on vous retrouve la semaine prochaine. Et on fait à présent un détour au Venezuela avec vous, Vincent Souriau, à 5 petits jours de l'élection présidentielle.
Et oui, élection qui aura lieu ce dimanche, on en parlait dans le journal. Et le professeur Luis Emilio Bruni en profite, lui, pour tirer son chapeau à la patronne de l'opposition vénézuélienne dans une tribune publiée par le Miami Herald. Quel que soit le résultat de cette élection, écrit-il, Maria Corina Machado a déjà libéré l'esprit et le cœur d'une majorité de Vénézuéliens qui rêvent d'un changement de régime. Machado, empêchée de se présenter, s'est mise au service de son remplaçant, qui fait la course en tête dans toutes les enquêtes d'opinion sérieuses. Machado, encore elle, transportée partout dans le pays, à dos de cheval, à dos de moto, à dos de camion, à dos de canoë, est parvenue à contourner les barrages mis sur sa route, malgré l'arrestation de ses proches et les menaces qui pèsent sur ses partisans. Et pourtant, affirme Luis Emilio Bruni, les autorités vénézuéliennes construisent déjà un récit, le récit d'une tentative de déstabilisation au cas où l'opposition, justement, dénoncerait des fraudes à l'issue de l'élection présidentielle. La communauté internationale doit se mobiliser et se coordonner pour protéger les droits des Vénézuéliens.
On part au Pérou, où une loi votée mi-juin au Congrès risque de porter atteinte à la création dans le cinéma. Au programme de nouvelles conditions pour recevoir des fonds publics, le ministère de la Culture, qui avait émis des réserves sur le projet de loi, n'a pas encore dit comment il comptait mettre en place ces nouvelles mesures. Mais en attendant, les réalisateurs, les réalisatrices et autres employés du monde du cinéma péruvien s'inquiètent. Reportage à Lima, signé Juliette Chénion.
Ses opposants l'ont renommée la loi anti-cinéma. Mi-juin, à l'occasion d'une manifestation contre le gouvernement, le réalisateur Jonathan Releys était dans le cortège pour protester.
Avant, on pouvait financer un film avec 100% des aides, mais désormais, ils veulent limiter l'aide à 70% du budget. Cette loi a été décidée sans consulter les cinéastes, et on se retrouve impuissant, dans l'impossibilité de se défendre face au Congrès.
Comme lui, 70 associations et 700 employés du secteur ont déjà dit leur opposition à la loi, inquiets des nouvelles conditions de financement, car l'État refusera désormais de soutenir les œuvres contrevenant, comme le dit le texte, à la défense nationale, la sécurité et l'ordre interne du pays. Une censure qui ne dit pas son nom d'après Mélissa Cordero, productrice, et Mélissa Léon, réalisatrice.
Ce qu'ils veulent, c'est que les gens ne parlent plus, ne s'expriment plus. C'est tout à fait inacceptable. Nous n'allons pas laisser passer ça.
Les projets portant atteinte à la sécurité nationale ne seront plus soutenus. C'est un langage typiquement militaire. En fait, ils veulent empêcher que l'on parle des crimes commis par les militaires, à commencer par la répression des manifestations, avec par exemple les 50 morts qui ont eu lieu sous ce gouvernement.
Mélissa Léon redoute aussi une interprétation trop large de cette clause.
On sait qu'ils sont contre le fait de parler de la communauté LGBT, des droits reproductifs des femmes. Et tout thème qui va contre le statu quo pourrait être touché par cette mesure. Car cela a déjà été exprimé au Congrès et des enquêtes ont été lancées contre des films portant sur ces thèmes.
Autre nouveauté, la loi pousse pour un guichet unique des demandes d'aide, non plus auprès du ministère de la Culture, mais devant une commission du film liée à l'agence de promotion du Pérou. Objectif pour le Congrès, augmenter les coproductions et inciter les étrangers à tourner dans le pays, comme cela s'est déjà fait par exemple avec le dernier opus Transformers. Tout cela au détriment du budget accordé au cinéma régional et en langue autochtone, d'après la réalisatrice Rosana Díaz-Costa.
C'est dommage, car nous étions en plein développement du cinéma régional qui va retomber. On va nous demander désormais d'avoir déjà un financement avant de postuler aux aides. N'importe qui fait du cinéma sait que c'est impossible. Et cette loi va, avec beaucoup d'autres lois inconstitutionnelles promulguées récemment, dans des domaines en réalité bien plus importants que le cinéma. La loi cinéma n'est qu'un problème parmi tant d'autres.
Le Pérou traverse en effet une crise démocratique, avec un congrès à majorité de droite conservatrice, comme la députée Adriana Tudela, soutien de ce projet de loi sur le cinéma. Dans une vidéo Instagram, elle répond aux craintes des cinéastes.
De 2019 à aujourd'hui, les régions ne recevaient que 33% des aides pour le cinéma. Cette nouvelle loi impose que les aides représentent au moins 40% du budget.
Pour la députée, la loi va faciliter le financement privé des œuvres avec des crédits d'impôt pour les entreprises et des exonérations de taxes sur le matériel audiovisuel importé.
Il y aura beaucoup de bénéfices, mais les opposants ne les mentionnent pas, car on dirait que tout ce qui leur importe, c'est que l'on ne touche pas un centime des aides qu'ils sont habitués à recevoir.
Reste la question de la censure.
Celui qui veut faire un film appelant à la révolution est en droit et a toute la liberté de le faire, mais qu'il le fasse avec ses propres deniers, pas avec ceux des Péruviens.
Pas de quoi rassurer les cinéastes péruviens, dont la plupart des films ne pourraient voir le jour sans fonds publics. En 2022, le ministère de la Culture a soutenu 233 productions pour un montant moyen d'environ 100 000 euros par œuvre. Juliette Chénion, Lima, RFI.
À Lima, où il est 8h22, 9h22, à La Havane. Je reviens vers vous, Vincent Sourio, pour les suites des titres de la presse, d'ailleurs. Effectivement, et ce dernier mot qui nous emmène à Cuba.
Et oui, à lire sur le site d'El País, comment la population de Cuba a chuté en un an de 18%. Exode dramatique qui remonte à 2021. Ce ne sont évidemment pas des données officielles, mais des chiffres analysés par le démographe cubain en exil, Juan Carlos Alibizu Campos, à partir des listes électorales. Pourquoi et comment les Cubains s'échappent du pays, à découvrir dans cet article passionnant, effrayant aussi, puisque l'ONU nous dit, Stéphane, que si la tendance continue, la population de Cuba pourrait être inférieure à 6 millions de personnes d'ici à 2100, contre 11 millions aujourd'hui.
Toute la presse était avec vous, Vincent Sourio. Merci beaucoup, Vincent. On poursuit la suite du journal d'Haïti et des Amériques. 15h23, ici à Paris, 9h23 à Pointe-à-Pitre.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la première, c'est Benoît Ferrand qui nous informe aujourd'hui à la une. Benoît, 16 200 000 euros pour la modernisation et le renouvellement de la flottille de pêche en Guadeloupe.
Deux conventions signées hier à Basse-Terre entre l'État et la région, des financements qui ne seront pas de trop, comme on dit, pour tenter de remettre à flot une filière qui ne cesse de décliner en Guadeloupe. Écoutez d'ailleurs la satisfaction du président du comité régional des pêches, Charlie Vincent. Il est au micro de Thierry Philippe.
C'est une grande satisfaction. C'est un travail acharné, plusieurs années de travail, réunion technique, beaucoup de lobbying également pour prouver la nécessité que notre département a besoin de ce renouvellement de la flotte pour se développer et à garder cette autonomie alimentaire qui est indispensable dans notre territoire. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un travail collectif, aussi bien avec la région Guadeloupe et ses techniciens, son président, ainsi que l'État. Parce qu'au début, l'État était un petit peu réticent sur le sujet, mais aujourd'hui, ils nous suivent à plus de 100% là-dessus. Ils mobilisent énormément de techniciens et de compétences. Donc nous sommes très fiers de ce travail collaboratif et ça montre qu'ensemble, on peut réussir des choses parfois impossibles. Aujourd'hui, on a une flottille vieillissante, mais aussi en termes humains. On a pas mal de départs à la retraite également et c'est important aujourd'hui de pouvoir donner aux jeunes et aux nouveaux entrants matériel sur lequel ils peuvent compter et avoir une bonne partie en financement public. Donc c'est très important aujourd'hui de donner ce coup de pouce pour la profession, permettre l'installation et aussi la pérennité de l'activité.
On reste, si l'on peut dire, dans le domaine maritime avec cette opération de sensibilisation qui a débuté hier en Martinique. Sensibilisation à la mangrove, écosystème précieux mais menacé. En cause, les activités humaines bien sûr, mais aussi les algues sargasses. Pascal Fardin est le président de l'association Roots of the Sea, les racines de la mer. Il est au micro de Ronan Bonnec.
La mangrove a besoin de respirer pour justement opérer ses vertus régénératrices, protectrices. Et c'est une façon aussi de dire que la problématique peut être transversale, peut être commune à la protection donc de la mangrove et aussi à ce fléau qui est l'échouage de sargasses. On a d'ailleurs eu la chance d'avoir la Fondation du patrimoine très récemment ce matin, pour ne rien vous cacher, qui nous a attribué un financement dans le cadre de la préservation est d'environ 5000 m² de mangroves, de la reconstitution, la protection et la reconstitution à Pointe-Rouge-au-Robert, qui est menacée justement par les sargasses, et à Omulan au Diamant. Et c'est un projet qui sera mis en place dans les semaines, dans les mois à venir, qui traite aussi de cette problématique et qui aura pour but de préserver aussi ces écosystèmes de ces échouages de sargasses.
Bon après-midi, à demain.
À demain, Benoît Ferrand, merci beaucoup. C'était l'actualité des Outre-mer avec nos confrères de La Première. Et c'est ainsi que se referme, je vais y arriver, RFI Midi. Merci à Mathieu Badre, à la réalisation Véronique Rigolet, à la rédaction en chef. Et avant de retrouver dans 3 minutes de vive voix avec Pascal Parado sur RFI, un peu de musique, Mepongo Loca, de la chanteuse Kali Uchis, s'est tiré de son dernier album, Orchideas, sorti en 2024.
too good, can't get rid of me. Too real, no, I don't do frenemies. Too real, so they can't get rid of me.
Mais Pongo Loca de Kali Uchis sur RFI. Très bon après-midi à l'écoute de la Radio du Monde.
Autour de la question à Madagascar, Caroline Lachowski.
Bienvenue au festival Majanga sous les étoiles pour observer l'extraordinaire ciel étoilé de l'hémisphère sud avec petits et grands. Des villages de brousse jusqu'en ville, comment les astronomes tout-terrain de l'association Aikintana, astronomie en malgache, partagent leurs télescopes.
Autour de la question avec Caroline Lachowski, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.